Bien, Philippe Legardet, je me réjouis d'être votre interlocuteur ce soir, après avoir suivi vos travaux de thèse. Et le livre que vous présentez aujourd'hui est une réécriture de votre thèse de doctorat, une très belle thèse de doctorat que j'avais eu la joie et l'honneur de diriger, et qui est aussi quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire de Bordeaux. Pourquoi est-ce important pour l'histoire de Bordeaux ? Parce que c'est un sujet qui n'avait pas été abordé de cette manière jusqu'à présent, même s'il y a eu la grande thèse de Paul Butel, qui était un point de vue tout à fait différent. Il s'agit en effet d'une histoire sociale des négociants et des marchands de Bordeaux, une histoire sociale qui en outre est décalée dans le temps, puisqu'elle va de 1780 à 1830. Donc finalement, elle suit plutôt chronologiquement les travaux de Paul Butel, qu'elle ne les recoupe ou qu'elle ne croise en quelque sorte ce qu'il avait fait lui-même. Travail très important aussi parce que désormais, Bordeaux est la première ville du Royaume de France à cette époque à avoir un travail de cette importance. Mais je crois que là maintenant, c'est à vous de vous exprimer et de nous dire pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet et quel a été l'intérêt qu'il représentait à vos yeux.
Alors je vous remercie et je remercie le public qui est venu écouter cette conférence. Alors en effet, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est que, en quelque sorte, il y avait une triple originalité à ce que j'ai voulu faire dans ce livre. C'était d'abord traiter, comme vous l'avez dit, le problème du négoce et de la marchandise du point de vue social. Hein, il existe déjà à Bordeaux une histoire du commerce, hein, une histoire du négoce, mais pas une histoire des négociants et encore moins une histoire des marchands. Donc c'est vraiment un point de vue social, une étude qui est centrée sur les hommes, sur leur vie intime, sur leur vie en tant que mari, père de famille, en tant que lecteur, leurs comportements familiaux qui m'ont intéressé, plus que l'aspect purement commercial. En plus, ce que j'ai voulu étudier, à la différence de ce qu'avait fait par exemple Paul Butel, c'est de ne pas me limiter à l'élite du monde négociant, mais d'étudier ce monde marchand dans toute sa profondeur, hein, depuis le grand armateur jusqu'au boutiquier de quartier. Ce qui m'a donné donc des effectifs assez importants, hein, non pas une centaine de personnes, mais des milliers finalement. Vous l'avez dit aussi, le cadre chronologique est un petit peu novateur, enfin en partie seulement, puisqu'il y a déjà des études sur la noblesse à Bordeaux qui couvrent exactement la même période, la thèse de Michel Figeac. J'ai voulu en quelque sorte effacer cette coupure artificielle qu'est la Révolution française dans nos études universitaires, et faire le pont entre l'Ancien Régime et la Restauration, les années 1830. Et ça permet de voir un petit peu si la Révolution représentait une réelle rupture. Et le travail aussi est assez original, il me semble, par, j'allais dire, la ville elle-même qui est, que j'ai étudiée, puisqu'il s'agit d'une grande ville. Et souvent, les études historiques se fondaient sur des villes de taille moyenne. Là, il s'agit du plus grand port de France à l'époque. Donc les sources sont énormes. Et c'est plutôt le trop-plein qui menace le chercheur que, dans ces périodes-là, le résultat est qu'il a fallu faire des choix dans l'utilisation des sources. Donc une très grande ville et sur une période de presque 50 années, hein, de part et d'autre de la Révolution.
C'est au fond d'ailleurs la norme de toutes les thèses qui ont été faites sur Bordeaux. La mienne couvre essentiellement en gros 50 à 60 ans, celle de Paul Butel aussi, etc. Parce que ça correspond à quelque chose, à une définition de sujet d'abord, parce qu'aussi il y a un problème d'énormité de sources. Et là, je crois qu'il faut revenir sur ce que vous avez dit il y a un instant, c'est-à-dire que chez vous, pour la première fois, on ne trouve pas simplement l'élite du commerce, mais l'ensemble du monde du commerce, puisque les marchands sont présents. Au fond, seuls des petits boutiquiers ou des artisans faisant également un peu de commerce ont en partie échappé, mais ce n'était pas tellement l'objet de votre recherche. Mais alors, aussitôt, cela pose la question que vous avez déjà abordée et dont il faut que vous disiez, je crois, un mot, c'est-à-dire les sources utilisées.
Alors, les sources utilisées sont très importantes et assez diverses. L'essentiel des sources, la source principale, hein, ce sont les minutes notariales, les notaires bordelais. Alors on a la chance à Bordeaux d'avoir des archives des notaires très bien conservées. Et par contre, alors, on a une trentaine de notaires qui exercent en même temps dans les années 1780. Ce qui fait qu'on a une masse de liasses à dépouiller qui est assez impressionnante. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des coupes, bien sûr, comme on fait dans toutes les études de ce genre, mais des coupes d'une certaine taille, puisque j'ai essayé de faire quatre grandes coupes de dépouillement de 5 à 6 années chacune. Ce qui fait que j'ai dépouillé quasiment la moitié de la période totale que j'étudie. J'en ai fait une juste avant la Révolution, les années 1784-88, ce qui permet de faire un bilan de l'état du négoce, de la marchandise à l'apogée du siècle d'or bordelais. Une autre qui se situe après la première grande crise, c'est-à-dire sous le Directoire, après la Terreur, dans les années 1795-1800. Alors celle-là fait 6 années parce que ce sont les années révolutionnaires qu'on dépouille, donc ça chevauche les années civiles. Ensuite, j'ai fait une troisième coupe au moment juste après la grande crise impériale, c'est-à-dire entre 1808 et 1812, au moment où vraiment le port souffre terriblement du blocus britannique. Et pour terminer, j'ai essayé de voir où en étaient nos négociants et nos marchands dans les années 1825, 20-25, pour voir un petit peu si les pertes avaient été si terribles qu'on le dit, dans des périodes un peu plus calmes, hein, dans les années 1820.
Mais Philippe, c'est une source classique finalement, les notaires, oui. Mais vous avez utilisé une source à laquelle on ne pense pas forcément et que le grand public ne connaît pas nécessairement, donc je crois qu'il faudrait que vous en parliez.
Voilà, il y a une source qui n'avait jamais, je crois, été utilisée de cette manière, ce sont les almanachs et annuaires. Ce sont ces petits ouvrages qui étaient de petite taille, qu'on pouvait mettre dans sa poche et qui sont une mine de renseignements extraordinaires, justement à partir de la période que j'étudie, puisque les premiers intéressants datent des années 1780. Alors il ne s'agissait pas simplement d'avoir le calendrier et les renseignements de l'année. Il se trouve que dans ces almanachs bordelais, il y avait des listes exhaustives de négociants et de marchands avec les adresses. Donc, tous les commerçants bordelais étaient répertoriés, avec quelquefois séparément, liste de négociants. Donc on avait quelquefois 700-800 sociétés de commerce répertoriées, et les marchands avec leur spécialité, chaque spécialité. Ce qui m'a permis de dépouiller pratiquement 60 annuaires. Ce sont des petits livres, mais il y a quand même quelques centaines de pages à chaque fois. 60 annuaires sur toute la période. Avec ces listes que j'ai réussi de cette manière à informatiser, j'en ai fait une base de données. Et cette base de données m'a permis de répertorier sur 50 années à peu près 5000 négociants et marchands de Bordeaux. C'est une base de départ qui m'a permis ensuite de tenter des recoupements avec les sources notariées dont nous parlions tout à l'heure.
Si vous permettez, je crois qu'on peut dire au public qui est présent que un de nos problèmes dans ce domaine, c'est d'avoir des listes. Alors, nous sommes au fond, à la fin du XVIIIe siècle, dans la situation où nous serions aujourd'hui si nous n'avions que les annuaires du téléphone, par exemple. Donc, c'est un peu le même problème, mais c'est une source qui est une source, vous le montrez, d'une richesse considérable, finalement.
Oui, parce que avec cela, on peut voir, bien sûr, on a des raisons sociales hein, qui sont indiquées, on a les adresses, bien évidemment. Ce qui m'a permis de faire, par exemple, une cartographie exhaustive de l'implantation des maisons de négoce à Bordeaux. Point par point, j'ai des cartes dans le livre qui me permettent de voir où habitaient vraiment négociants et marchands, rue par rue, hein, et donc avec des cartes sur lesquelles j'ai 800 sociétés avant la Révolution, après la Révolution.
Et qui apportent quelque chose de nouveau, puisque vous changez ce qu'on croyait, qu'on écrit souvent à ce
sujet. Voilà, ce qu'on écrit souvent, c'est la domination déjà des chartrons, hein, de cet espace qui est celui aujourd'hui encore, hein, qui était dans l'imaginaire bordelais, celui des négociants, alors qu'on se rend compte que sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, la masse des négociants vit encore dans les vieux quartiers du Vieux-Bordeaux. Hein, et dans les années 1820, eh bien, l'équilibre n'a pas encore basculé hein, de l'autre côté, puisque on trouve à peu près, en nombre équivalent, 200 à peu près sociétés de négoce sur la façade des Chartrons et dans les rues qui sont derrière. Et il y en a encore à peu près autant qui sont dans les vieux quartiers entre Saint-Michel et puis la place du Parlement actuel, si vous voulez.
Autrement dit, la rue de la Rousselle est aussi importante que les rues des Chartrons.
La rue de la Rousselle est pas aussi importante, mais il y a bien une centaine de négociants encore à la veille de la Révolution, rue de la Rousselle, c'est-à-dire à peine la moitié de ce qu'il y a sur toute la façade des Chartrons, hein, jusqu'à Bacalan. Et sur le fameux pavé des Chartrons, hein, le cours Xavier Arnauzan actuel, on n'a guère qu'une vingtaine d'entreprises, en fait. Bien sûr, il faut nuancer un petit peu le propos, car il y a aussi la taille des entreprises qui compte. Hein. Le nombre ne fait pas tout, et on s'en rend compte en étudiant la taxation de ces négociants que par rapport au nombre d'entreprises, c'est vrai, les Chartrons possèdent des entreprises de taille plus importante, ce qui rééquilibre un petit peu, mais il ne faut pas croire à la domination exclusive. Cette domination va se faire dans la seconde moitié du 19e siècle, en fait.
Alors, ici, vous abordez finalement, dans votre dernière phrase, l'un des buts de votre recherche, qui est l'étude des structures de ce monde du négoce et de la marchandise.
Oui, et c'est évidemment un problème important du fait que j'étudie, dès le départ, négociants et marchands. Alors, on se heurte tout de suite à un problème de vocabulaire, qui est un problème qui n'est pas nouveau, qui d'ailleurs est un problème à la fois français, anglais, italien, allemand. On trouve ce même problème. Qu'est-ce que pouvait être un négociant à cette époque, hein, par rapport à un marchand? Comment utilisait-on les termes, hein? Et alors là, on entre dans des débats extrêmement compliqués, qui sont difficiles à trancher. Ce qu'il faut dire pour aller vite, c'est que le négociant ne se confond pas exclusivement avec le marchand en gros, avec le grossiste. Il existe des marchands qui font, bien sûr, de la vente, même sur de longues distances. Par contre, alors, il faut faire très attention, à l'époque que j'étudie, nous ne sommes pas du tout dans le cadre du négoce en vin que l'on connaît encore aujourd'hui. Le négociant est un homme polyvalent, qui fait aussi bien du négoce de vin, bien évidemment, puisque c'est le cœur de la richesse bordelaise, mais qui fait aussi, surtout à l'époque, du commerce colonial, qui peut faire aussi de la traite négrière, de plus en plus à la fin de l'Ancien Régime, et qui ne se spécialise ni dans un type de produit, hein, ni dans un type d'activité, puisque le négociant, il peut être armateur, il peut être commissionnaire, il achète pour le compte d'un autre, il peut être banquier, hein, il peut être assureur au sens des assurances maritimes, il assure les cargaisons d'autres navires. Et il peut être tout cela à la fois, en plus. Négociant, armateur, assureur, banquier. Hein. La banque, ce n'est qu'un commerce d'argent, finalement, comme un autre pour le négociant. Et alors, la différence qu'on voit dans les actes notariés, le négociant est négociant, tandis que le marchand, il est toujours marchand de quelque chose. Hein. Marchand épicier, marchand de tissus, marchand fourreur, marchand bijoutier, etc., joaillier, il y a toujours un adjectif derrière qui nous permet d'identifier donc les différents métiers. Mais il y a encore plus compliqué, c'est qu'il existe toute une catégorie de marchands négociants à Bordeaux. Des gens qui commencent dans la marchandise et puis qui, avec la conjoncture porteuse de la fin du XVIIIe siècle, se lancent dans le grand commerce, sans abandonner obligatoirement leur première activité. Certains tiennent boutique, ont encore une boutique de graisserie, comme on dit, d'épicerie, et en même temps, ils se sont lancés dans l'armement et la traite. Alors ça peut aussi se faire de manière successive. Ils abandonnent la marchandise pour entrer dans le négoce, mais ils peuvent très bien continuer les deux activités. J'avais remarqué que sur 800 sociétés à peu près de négoce à Bordeaux dans les années 1780, il y avait bien 200-250 marchands négociants, en quelque sorte. Par contre, nos négociants bordelais sont très peu, comme à Lyon, des négociants ou des marchands fabricants. Il y a assez peu de fabriques et l'industrie. Il y a des tentatives, je les ai étudiées, mais qui sont souvent sans lendemain.
Ce sont au fond des marchands-marchands, des négociants-négociants.
Voilà.
Mais alors finalement, vous avez vos listes, donc vous avez des noms. Vous avez après, grâce aux sources notariales ou fiscales ou commerciales dont nous n'avons guère parlé, mais dont nous parlerons un peu plus tard, finalement, vous avez la possibilité de représenter cette pyramide avec les caractéristiques de chacun, mais le deuxième objectif était aussi de montrer comment ils avaient vécu la conjoncture, car tout de même, 1780-1830, nous avons la Révolution, nous avons l'Empire, nous avons la Restauration, c'est-à-dire des changements qui, du point de vue politique et social, sont des changements considérables.
Et c'était, je crois, tout à fait l'intérêt majeur du sujet. C'était d'étudier, évidemment, une période extrêmement troublée, une période qui, à la fois dans l'histoire de France et dans l'histoire de Bordeaux, apparaît comme une période souvent tragique. Peut-être, c'était l'objet de mon étude, je me suis demandé si on n'avait peut-être pas surestimé peut-être les malheurs de Bordeaux, et j'ai mené cette enquête. Alors, c'est vrai que j'ai réussi, alors, avec, par exemple, les almanachs, à mettre au point de véritables tables de mortalité des entreprises. On arrive à voir comment les maisons de négoce survivent, puisqu'on dépouille les almanachs année après année. On voit si on retrouve nos négociants. On en voit disparaître quelquefois, et on les voit réapparaître quelques années plus tard. Il y a des périodes d'hibernation, en quelque sorte, pour ces négociants.
Donc j'ai, alors mais là, c'est là que... Philippe, vous dévalorisez un peu votre recherche, presque, parce que vous n'êtes pas contenté de savoir si vous les retrouviez. Oui. Vous avez fait aussi des études en profondeur pour savoir si vous les retrouviez avec des moyens intéressants ou non, s'ils avaient des pertes ou des gains, etc.
Bien évidemment.
Je crois qu'il faudrait quand même le dire dès à présent, d'un mot au moins.
Oui, j'ai réussi, alors en croisant les multiples sources, j'ai essayé de voir ceux qui avaient véritablement été, qui avaient cessé leurs activités purement et simplement. Et là, on remarque le choc inouï de 1793. C'est le premier choc, hein, c'est pas 89. Hein, le commerce continue, 90, 91, 92. On atteint l'apogée quasiment de la traite bordelaise dans ces années 1791-92. C'est 1793, la guerre maritime avec l'Angleterre, c'est l'élément essentiel. C'est la paralysie du trafic, hein, et c'est par-dessus tout le commerce touché par le dirigisme économique des Jacobins de cette période. Alors là, c'est vrai qu'on se rend compte que 70% quasiment des entreprises disparaissent en quelques années. Et j'ai réussi à étudier, à faire un tableau qui est dans le livre, de 47 cessations d'activité où j'ai le pourquoi du comment, en quelque sorte. Hein, pourquoi ils ont arrêté, s'ils ont repris. Et certains reprennent quelques années plus tard, d'autres finissent en rentier ou ruinés, autant qu'on puisse avoir des renseignements sur ces choses-là. Donc là, j'ai pu suivre un certain nombre d'entreprises, d'hommes surtout. Il n'y a pas que des chiffres dans le livre, c'est ce qu'il faut...
Je crois qu'on peut même aller plus loin. Là, vous êtes un peu modeste par rapport à ce que vous avez réalisé. Philippe Gardet a, en quelque sorte, fait toute une série de monographies de négociants et de marchands et a pris des gens parfaitement inconnus. Nous avions publié il y a quelques années un article d'un certain Nambalade, originaire de la Genée, qui était quelqu'un que personne ne connaissait ou n'avait au fond de raison de connaître, et vous avez montré par vos sources qu'on pouvait retracer sa vie, sa carrière. Alors, il y a dans votre travail, justement, toute une série de négociants et de marchands qui revivent. Peut-être pourriez-vous donner un ou deux exemples.
Oui, alors c'est pour illustrer là, les capacités un petit peu de l'informatique aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. En rentrant dans ma base de données... les actes notariés, les almanachs, les sources fiscales, avec l'évaluation des impôts, des emprunts forcés de la Révolution, ou en entrant aussi les sources de la terreur, c'est-à-dire les jugements. Énormément de négociants y ont été arrêtés. Quand on croise tout cela, on voit apparaître des individus totalement inconnus, dont on peut reconstituer, non pas toute la vie, bien évidemment, mais quelques éléments. Alors, j'en ai reconstitué comme ça à peu près 150, et qui sont mes fiches de départ que j'ai ensuite découpées et dont je me suis servi dans le livre. Alors, par exemple, on peut prendre un de ces négociants qui n'était pas du tout connu, il ne fait pas partie des grandes familles qui, encore aujourd'hui, ont fait le renom de Bordeaux, hein, un certain François Domanger, par exemple. Hein. On ne sait rien sur lui, par contre, grâce aux sources que j'ai pu dépouiller. Hein, on sait qu'il est né à Bordeaux en 1756, qu'il était établi entre la place du Palais puis la rue du Chez des Farines, et qu'en 30 ans, cet homme avait accumulé une fortune considérable dans l'armement et aussi dans la traite négrière. En 1789, on a sa fortune, 800 000 livres. 800 000 livres, c'est une somme considérable. Une belle maison du pavé des Chartrons, ça coûte 50 000 livres. Un navire, ça coûte 50 000 livres à peu près. Ah, la coque, bien évidemment. Hein. Un grand bien de campagne, un grand château du Médoc, c'est dans les 100 à 200 000 livres. 800 000 livres de fortune, il fait partie des 10% les négociants les plus riches de Bordeaux. Et pourtant, il n'a pas de plaque de rue à son nom. Hein. La Révolution va lui occasionner des pertes terribles. Il a des navires qui sont un petit peu perdus dans l'Atlantique et qui sont bloqués en Nouvelle-Angleterre, qui sont bloqués à Saint-Domingue. Il a des pertes épouvantables, plus de 300 000, 350 000 livres de pertes. Et en plus, il est arrêté par la commission militaire, c'est-à-dire le tribunal révolutionnaire bordelais, qui, évidemment, trouve qu'il est encore un peu trop riche. Il réussit à sauver sa tête, parce que le président du tribunal bordelais est corruptible. Hein, il a un prix, et nos négociants l'ont trouvé assez vite, donc il y a des tractations assez sordides pour sauver sa tête à l'époque. Et finalement, il survit. Hein, il refait surface. Alors, bien sûr, il se plaint. Il se plaint beaucoup. On a dans les archives bordelaises des réclamations après les emprunts forcés de la Révolution. Je ne peux pas payer parce que je suis chargé de famille, j'ai plein d'enfants à nourrir. Et lui dit « Je n'ai plus les moyens de vivre à Bordeaux. Hein. Et je serai forcé de me retirer si quelque hasard desquels je suis désaccoutumé ne vient me tirer du bourbier. » Bon. Alors, évidemment, d'après lui, il s'apitoie un petit peu sur son sort, et puis surtout, il veut apitoyer les autorités. Il lui reste quand même une maison à Bordeaux, il lui reste son bien de campagne, dont il tire à peu près 5000 livres de revenus par an. Et puis, on se rend compte qu'il ne s'est pas retiré des affaires, finalement, même s'il se dit qu'il va partir. C'est son fils qui reprend, et... le nom des Domanger reste dans les affaires et on se rend compte qu'il lui reste à peu près... Bon, c'est vrai que c'est une perte importante. Il lui reste 200 000 livres pour finir sa carrière de bien, ce qui lui assure un revenu assez correct, et malgré des pertes considérables. Hein. Alors, on a plein d'exemples de ce type. Des exemples même, celui-là encore a pas mal perdu. J'en ai comme ça qui sont assez extraordinaires. C'était par là d'ailleurs que je commençais le livre. C'est le cas de Pierre Changeur. Pierre Changeur, c'était un exemple de marchand négociant. Il faisait du commerce de graisserie, une boutique. Et puis, il se lance dans l'armement, dans la traite négrière, un navire, en 1790, en pleine révolution. Sa fortune, c'est de 1 400 000 livres en 1793. Il est arrêté lui aussi, et deux ans après avoir fait son dernier armement négrier, il explique au tribunal qu'il est tout à fait content de l'affranchissement des nègres qui, au mépris des droits naturels, étaient plongés dans un esclavage révoltant pour l'homme ami de son semblable. Il a un petit peu changé d'avis assez rapidement. Et il est condamné à 100 000 livres d'amende. Ça, c'était un petit peu la punition. Hein, on appelait ça à l'époque une correction fraternelle ou paternelle, selon l'âge du négociant arrêté. Hein, on taxait les bourses plus qu'on tuait fortement. Et cet homme-là qui a beaucoup perdu, eh bien, finalement, il survit. Hein, il continue le commerce. Son fils reprend les affaires. Et dans les années 1820, il se retire en rentier. Il vit du revenu de 15 maisons qu'il possède à Bordeaux à ce moment-là. Alors, il devient rentier, c'est vrai, mais sur la fin de sa vie. Il n'y a pas de repli vers la rente parce qu'il a encore un capital commercial. Et l'entreprise survit fortement. Il meurt en rentier respecté après avoir passé les orages révolutionnaires.
Ce que vous venez de dire m'amène d'abord à une remarque et ensuite une question. La remarque, je crois que ceux qui vous écoutent doivent... bien saisir ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est véritablement de l'archéologie sociale. Autrement dit, partant de choses totalement inconnues, qui n'émergeaient absolument pas, vous avez réussi à les ramener au jour, de même qu'un archéologue, en fouillant le sol, ramène au jour des témoignages du passé. Alors, c'est une méthode qui a été relativement très peu employée jusqu'ici, surtout s'agissant de gens non connus, et c'est la preuve, si vous voulez, que l'on peut aller beaucoup plus loin qu'une simple généalogie, car on peut, à partir de là, véritablement faire avancer la connaissance historique. Ce qui m'amène à la question, mais globalement, comment ces négociants et marchands ont-ils traversé la période révolutionnaire et impériale? Car il y a à la fois le destin individuel que vous venez de retracer, et il y a aussi la vue globale que l'on peut avoir de ce milieu.
Alors c'est là, évidemment, que petit à petit, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai été amené à modifier un petit peu la perspective traditionnel, si j'ose dire, qu'on avait sur Bordeaux et sur cette catastrophe de la Révolution. Alors je ne nie pas, évidemment, que le port a beaucoup souffert pendant cette période, non seulement pendant la Révolution, mais surtout pendant les dures années du Premier Empire, du blocus continental. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre difficulté du port, ou même quelquefois ruine du port, et ruine des négociants et des marchands. Quand on étudie les différentes, quand on étudie les fortunes, alors j'ai le cœur de mon travail, ça a été grâce au notaire d'étudier bien évidemment les fortunes, d'étudier les mariages, donc les apports au mariage, les capacités financières au moment où on se marie, eh bien on se rend compte que les capacités financières des négociants comme des marchands dans les années 1820 ne sont guère inférieure à ce qu'elles étaient dans les années 1780. Alors bien sûr, il y a eu une sorte d'écrémage des plus hauts niveaux, les mariages exceptionnels où on pouvait amener 1 million de livres, se font très rares, mais on voit aussi disparaître les tout petits mariages. Finalement, il y a un resserrement sur les bons niveaux, moyens. Et alors ce qui est frappant, je crois que c'est quelque chose qui est difficile à faire sentir dans les statistiques, on le voit facilement, mais c'est presque physique, si j'ose dire, quand on dépouille les actes notariés. C'est là tout l'intérêt aussi du travail de l'historien. On regarde des actes notariés et on voit le style, on voit les chiffres ronds, on amène 25 000, 50 000, 100 000 livres, et comptant au contrat de mariage. Alors qu'à la même époque, il n'en est plus du tout question dans les milieux nobiliaires, par exemple. Et dans les années, donc, après deux désastres, 1793 et 1808, 1809. Donc, les capacités financières du monde de la marchandise n'ont pas été atteintes dans le cœur. Alors, évidemment, pourquoi ? On peut s'interroger, parce que j'ai mes tables de mortalité, je vois un massacre des entreprises. 70-80% des entreprises de 1788 ont disparu dès le Premier Empire. Mais on s'aperçoit aussi que même en temps de paix, même en temps de conjoncture classique, si j'ose dire, il y a une disparition très rapide des entreprises. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un renouvellement intense. Ce qui est frappant, c'est cette capacité au renouvellement des hommes. On a sans arrêt des négociants nouveaux, des marchands nouveaux qui arrivent à Bordeaux, qui tentent leur chance. Alors, certains négociants sont ruinés, bien sûr. Et ceux qui sont riches dans les années 1820 ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient riches dans les années 1780. Il y a eu ruine de certains négociants, mais il n'y a pas eu ruine du négoce en tant que catégorie sociale ou des marchands en tant que catégorie. C'est le renouvellement intense. Et là, Jean-Pierre Poussou connaît bien le problème lié à l'immigration bordelaise, à ce pôle bordelais qui attire tous les jeunes hommes qui ont envie de réussir de tout le sud-ouest et même bien au-delà, qui sans arrêt alimente cette fournaise bordelaise en quelque sorte. Alors bien sûr, la Révolution a beaucoup détruit cette capacité, mais ne l'a pas totalement amoindrie comme on l'a cru souvent.
Mais aujourd'hui encore, le taux de disparition annuel des entreprises est de l'ordre de 10% par an. Oui. Il y a un renouvellement considérable qui se fait chaque année. Donc vous avez trouvé des choses semblables. Alors ceci dit, quand même, il y a cette grande conclusion que vous donniez il y a un instant, c'est que plus des trois quarts des entreprises existant à la veille de la Révolution n'existent plus 10 ans après. Donc oui. C'est ce renouvellement qui est très important.
Et ce renouvellement est le signe d'un dynamisme extraordinaire, finalement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de compter les disparitions, mais ce que j'ai réussi à mettre en évidence dans le livre, c'est qu'il faut voir la chose comme il y a un stock d'entreprises avec un flux d'entrée, un flux de sortie. Et finalement, les disparitions ne sont que le solde à chaque fois. Donc on a par exemple 600 sociétés sur 850 et quelques qui disparaissent purement et simplement en une dizaine d'années. Mais pendant que ces 600 sociétés, en fait, vous avez près de 400 créations d'entreprises à la même période. Donc c'est extraordinaire. Alors ce qui change tout de même, il faut le dire, durant la période de la restauration, c'est qu'on sent que le dynamisme de création d'entreprises s'affaiblit un petit peu. On ne crée plus autant d'entreprises par an. Heureusement, il en disparaît beaucoup moins du fait de la conjoncture.
Du point de vue du graphique, avant la Révolution, on a un graphique qui monte comme cela, et on est au contraire dans une conjoncture beaucoup plus plate après.
C'est-à-dire qu'on sort en gros de l'exceptionnalisme bordelais qui était la situation des années 1780. Alors c'est ça toujours le problème, c'est qu'on dit, bon, Bordeaux est en déclin. Oui, mais ça dépend à partir quel point de départ on prend, bien évidemment. Si on prend comme point de départ du nombre des négociants les années 1787-88, alors c'est vrai, on se retrouve vers 1820, puis on a une courbe qui descend, on est à 600 sociétés. Mais si on prend 1782-83, juste après la guerre d'Amérique, eh bien on se retrouve quasiment au même niveau. Alors tout dépend, bien sûr, de l'endroit où on fixe le curseur, c'est toujours le problème des études statistiques. Il y a une période exceptionnelle, ce sont les 10 dernières années pratiquement de la fin de l'Ancien Régime. Et on se dit alors, qu'est-ce qui serait passé si Bordeaux n'avait pas connu les désastres de la Révolution? Bien sûr, on aurait progressé beaucoup plus. Et on trouve que le simple maintien, finalement, des niveaux atteints est finalement décevant. Mais bon.
Alors, il y a eu beaucoup de victimes, mais il y a eu aussi un certain nombre de négociateurs, de marchands qui ont profité de la conjoncture pour faire des affaires, voire pour s'enrichir de manière extrêmement forte.
Oui, il y a eu de nombreuses stratégies pour s'adapter en permanence à la conjoncture. Alors il y a ceux qui se replient, qui se mettent de côté pendant quelques années, qui se mettent en hibernation, comme je le disais. Il y a ceux qui essaient de se spécialiser dans une activité plus porteuse en période révolutionnaire. Il y a ceux qui tentent, bien sûr, l'armement en course. Qui tente d'armer des navires corsaires. C'est une spéculation hasardeuse, mais qui a fait des fortunes à Bordeaux, en particulier celle de l'armateur Jacques Comte, que j'ai pu suivre. Il avait déjà été étudié en partie, mais là, on a pu suivre la réussite. Il y en avait beaucoup qui ont, comme ça, réussi à passer cette période et à s'arranger aussi avec les autorités. Il y a des négociants, il faut le dire, pendant la Révolution, qui n'étaient pas tous du côté, j'allais dire, des victimes, qui ont aussi pactisé avec les autorités révolutionnaires, qui ont été des agents de la terreur pour certains. Certains négociants, pour sauver leur tête, eh bien, n'hésitaient pas à aller dîner avec le président de la Commission populaire et ses séides, pour fixer les derniers arrangements, qui se fixaient à des sommes assez rondelettes. J'ai même trouvé un marchand, je n'ai pas cru au premier abord, qui avait deux marchands qui avaient proposé de fabriquer, une marchand de bois, de fabriquer une guillotine à haut rendement, pouvant faire tomber quatre têtes à la fois. Alors je trouve ça dans une source douteuse. Je vous dis tout de même, c'est un peu énorme, ça fait partie des mythes révolutionnaires. Pas du tout, aux archives départementales, il y a un dossier sur un projet de guillotine à quatre têtes par les marchands en question, Fadeville et compagnie. Donc, pour faire tomber les têtes de leurs congénères et autres compatriotes ou concurrents au même moment. Bon, il y a eu toutes les attitudes, et puis toutes les misquineries et toutes les noirceurs de l'âme humaine là, ressortent de manière terrible, bien évidemment, pour sauver sa tête dans ces périodes-là.
Il y avait déjà quelques travaux sur des Américains, mais peut-être pourriez-vous dire un mot de certains de ces Américains, car c'est un des grands changements de la période que l'arrivée de ces Américains.
Alors oui, alors les rapports entre Bordeaux et les États-Unis ont été étudiés par Sylvia Marzagali, qui elle a étudié surtout, j'allais dire, le trafic portuaire, le nombre de navires américains. Hein. Il faut penser qu'entre 1780 et 1815, on a plus de 2000 navires américains qui viennent à Bordeaux. C'est considérable, qui servent de navires neutres en période de guerre. Mais alors les Américains qui viennent s'installer véritablement à Bordeaux et qui font souche sont assez peu nombreux. Ils forment une petite communauté. J'ai pu en repérer un certain nombre, mais ces gens-là, en quelque sorte, ne se fixent que très rarement. Il y a pas mal de capitaines de navires américains qui viennent à Bordeaux. Certains d'ailleurs résident à l'hôtel ou louent un immeuble. Quelques-uns, bien sûr, connus, comme le fameux Jonah Jones, hein, qui se marient sur place et qui s'intègrent dans la communauté, sont des négociants de premier ordre. Mais c'est vrai qu'après 1815, le flux se tarit un petit peu d'arrivée des Américains. Les négociants qui arrivent en nombre dans les années 1820, ce sont des Allemands surtout. C'est le retour en force du négoce allemand, avec le retour de Bordeaux au vin, évidemment. Donc on voit pas mal de maisons de Hambourg, par exemple, qui envoient des agents et puis qui finissent par s'installer. Et là, on voit là apparaître le début de ce qui va être le grand négoce en vin que tout le monde connaît, finalement. Donc je ne vois, moi, que le tout début. J'étudie une période vraiment antérieure à ce qu'on appelle les négociants bordelais d'aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, à la fin du XIXe siècle, Bordeaux dépasse les 200 000 habitants, c'est-à-dire le double de la population qu'elle a en 1790. Et on est devant une ville qui est beaucoup plus importante à la fin du XIXe, même si elle est moins connue, qu'elle ne l'était à la fin du XVIIIe siècle. Mais concernant les fortunes elles-mêmes, quelle est la structure des fortunes de vos négociants et de marchands? Comment est-elle composée? Quelles sont les variations? Vous avez déjà donné quelques indications, mais peut-être faudrait-il les reprendre.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les négociants ne forment pas une catégorie homogène, et les marchands non plus. Il y a vraiment des écarts considérables, parce qu'on dit souvent bourgeoisie marchande, bourgeoisie négociante, mais en fait, il y a des tout petits et des très grosses fortunes. J'ai pu reconstituer à peu près 300 fortunes complètes dans ces années 1780-1820, et elles s'échelonnent avec des différences gigantesques. Des négociants peuvent avoir quelques milliers de livres de fortune, d'autres dépassent plusieurs millions. Il n'y a aucun rapport entre ces gens-là, évidemment. Ce qu'on voit très nettement, c'est bien sûr que les marchands et les négociants se succèdent, en quelque sorte, sur l'axe des fortunes, comme si les deux catégories s'enchaînaient l'une l'autre, avec un certain recoupement dans les milieux moyens, en quelque sorte. Il y a donc une diversité des fortunes assez énorme, mais qui se maintient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les années 1780 et les années 1820. Ce qui se maintient aussi fortement, c'est la structure même des fortunes. C'est-à-dire la composition de ces fortunes. On se rend compte que les biens immobiliers, les maisons et puis surtout les domaines de campagne, ne représentent pas un pourcentage plus important dans les fortunes dans les années 1820 qu'ils ne représentaient dans les années 1780. Il n'y a pas eu de ce fameux repli sur la rente foncière. C'est une illusion que cela...
Mais c'est un apport très neuf de votre travail.
Voilà, là, on peut conclure très nettement. Si on regarde le départ des capitaux vers la rente, on peut estimer ça à 500 000 livres par an. 500 000 livres par an, c'est-à-dire le prix d'une cargaison de navires. 500 000 livres pour tout le négoce. Alors, il y a un intense marché immobilier. Mais cet intense marché immobilier, il se fait entre négociants et marchands. On se vend les biens entre soi. Ou entre le monde du négoce et la noblesse, qui, elle, alors, perd des biens très fortement au profit des négociants. Mais ça avait commencé avant la Révolution, ce transfert.
Marquez quand même la comparaison ici de la thèse de Michel Figeac et de la vôtre. Amène à bien comprendre pour le monde nobiliaire à quel point la Révolution a été un bouleversement complet. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui.
Et je crois que la démonstration que vous faites Maintenant, on peut opposer les négociants et marchands aux nobles de manière très claire. Cette opposition est extrêmement parlante. Ça n'a pas été une révolution pour rien, c'est le moins qu'on puisse dire.
On peut dire que Bordeaux est un cas assez, qui rentre dans le cas classique. La noblesse a beaucoup souffert, a beaucoup perdu. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même dans les années 1820. Le négoce et le monde de la marchandise s'est adapté au monde nouveau qui sort de la Révolution. Il y a un transfert de propriété très net. On peut dire que dans les années 1820, le monde du négoce et de la marchandise, du négoce surtout, est passé devant la noblesse, occupe la première place. Alors bien sûr, il y a un effet trompeur, c'est que quand on regarde l'état des fortunes, les 10 plus riches de Bordeaux, c'est vrai qu'on trouve encore des nobles, bien sûr, ce sont les grosses fortunes. Mais si on regarde sur la masse globale, la masse des fortunes bordelaises, il n'y a pas de comparaison possible. J'avais fait la comparaison avec Michel Figeac, qui étudie les successions au décès. Il lui faut étudier de 1800 à 1850 pour trouver une cinquantaine de fortunes de nobilières. Moi, pour en trouver de la même nature et du même poids, il me faut 5 années. En 5 années de coupe dans les archives des successions, je trouve une masse de fortunes qui correspond à ce que lui a trouvé en dépouillant, enfin en cherchant ses fortunes sur 50 ans. Donc il y a un monde beaucoup. La noblesse s'est rétrécie, amenuisée, évanouie, dit Michel Figeac. Le monde du négoce et de la marchandise est toujours là. On a 2000 négociants et marchands à Bordeaux dans les années 1820. Plus les familles, il n'y a plus que 400 familles nobles et encore à la même époque. Donc il y a là, c'est vrai, une transformation, j'allais dire classique, dans le sens d'une évolution vers, c'est vrai, une société bourgeoise, une société notable. Telle que... Et en plus, alors, quand on regarde les relations entre négociants et nobles, alors qu'il y avait un certain nombre d'unions, de mariages importants à la fin de l'Ancien Régime, eh bien, cette tradition a tendance un petit peu à se perdre. Alors, non pas que les négociants ou les nobles ne cherchent plus des unions, mais j'allais dire que les unions cessent faute de candidats, étant donné l'amenuisement de la noblesse, finalement. Les mariages entre nobles et négociants représentent quelques pourcents, 3-4% des mariages du monde du négoce dans les années 1820. Ça pèse plus lourd pour si on prend les statistiques, pour les nobles, ça représente plus pour eux. Mais pour les négociants, c'est marginal, finalement, comme mariage.
Alors, on a des fortunes, qu'est-ce qu'on en fait de ces fortunes?
Alors, qu'est-ce qu'on en fait en dehors du fait d'acheter des biens?
En dehors de l'aspect économique,
disons. Alors, en dehors de l'aspect économique, bien sûr, on s'achète tout de même des domaines de campagne qui sont des domaines, des maisons de villégiature, qui peuvent être aussi des placements. Qui permettent d'avoir une vie à la campagne pour fuir un petit peu les miasmes de la vie bordelaise. Mais évidemment, on vit dans un cadre. On est ici dans un bel immeuble. Les négociants, les marchands vivent dans un cadre de vie que j'ai pu étudier. Alors là, c'est toute la dernière partie du livre qui est très, qui m'a demandé beaucoup de travail. J'ai dépouillé dans les 250 inventaires après décès, dans lesquels on les notaires répertorient les chaises, les tables, les armoires, la vaisselle, les petites cuillères, jusque le nombre de lits, de draps, les ustensiles de cuisine, sur des dizaines et des dizaines de pages. J'ai donc dépouillé tout cela minutieusement. J'ai essayé de tirer des études statistiques à partir de là pour étudier l'art de vivre, pour entrer dans l'intimité des négociants et des marchands, pour faire parcourir au lecteur les pièces, les salons, les salles de réception, jusqu'aux arrière-cuisines, aux sous-yards de l'époque. Et la même chose dans les domaines de campagne. J'ai étudié la qualité des meubles, le bois employé. Et alors, non pas simplement pour faire des descriptions, pour donner un petit peu un côté ornementation au livre, non. J'ai fait ça de manière comparative. Le but était toujours le même, de voir ce qui s'était passé entre avant et après la Révolution. Donc j'ai fait une coupe dans les années 1700, pendant les années 1790-95, et j'ai pris des inventaires dans les années 1820-25, pour voir si entre les deux... Le cadre de vie s'était dégradé. si, comme dans la noblesse, on continue à vivre dans un cadre nostalgique de l'Ancien Régime. Une autre manière d'étudier le déclin ou non du monde du négoce et de la marchandise. Si on avait des argenteries plus ou moins importantes avant et après la Révolution. Si on avait plus de draps, plus de décorations, de tableaux, etc. Et là, j'ai pu faire des constats, et le constat est assez éclairant, c'est qu'il nous montre une amélioration, un progrès dans l'art de vivre, un progrès dans le confort. Hein. Et ces hommes, en plus, sont ces hommes et ces femmes que j'étudie, ce milieu, aiment acheter du neuf. On vit dans les années 1780 avec la vieille commode bordelaise, avec encore quelques coffres. Dans les années 1820, on a partout du mobilier en pierre, en acajou, avec colonnades. Tout a été renouvelé, les lits, les armoires, les bureaux. On a visiblement les moyens de s'acheter tout cela. Hein. Donc ça, c'est un apport intéressant. Et j'ai pu comme ça aussi détailler les maisons, les intérieurs, les pièces. Combien de pièces dans les maisons ? Combien de pièces dans les demeures de campagne, où était installé, toujours la question traditionnelle, le fameux comptoir du négociant, hein, qu'on fixe souvent à Bordeaux. On dit, alors, il y a les maisons à entresol, il y avait le comptoir dans l'entresol. Manque de chance, des entresols à Bordeaux, il n'y en a pas tant que ça, d'abord, pas partout. Hein, et il y a bien des demeures où il n'existe pas. Et nos commerçants, nos négociants mettaient leur comptoir où ils pouvaient. Et on les a à peu près à tous les étages. Hein. Parce que là, j'ai une étude, vraiment, on voit où est le comptoir, c'est indiqué sur les actes.
Vous nous expliquez aussi ce qu'ils lisent, quelle est leur religion, voilà. Donc d'autres domaines que le matériel propre.
Là encore, oui, en dehors de l'aspect véritablement vie matérielle, j'ai pu accéder donc à l'étude des bibliothèques. Ces bibliothèques sont décrites dans les inventaires après décès, avec tous les titres. Alors, pas partout, mais j'ai dépouillé de manière exhaustive 70 bibliothèques avec tous les titres. Dans de nombreuses bibliothèques, il y a simplement tant de livres. Bon, on a juste le nombre. C'est décevant. J'ai fait reproduire 6 inventaires complets pour que les gens se rendent compte des titres de ce qu'on lisait, thème par thème. Et j'ai pu me rendre compte des lectures de nos négociants et de nos marchands. C'était des gens qui avaient une culture qui était plus vaste qu'on ne le dit souvent, hein, qui ne s'intéressaient pas énormément, il faut le dire, à la littérature religieuse, qui n'avaient pas tant que ça une littérature financière, économique et commerciale. Hein, il y a assez peu, finalement, de livres sur leur métier. Ce sont des praticiens, surtout. Hein, et ce qu'on lit, d'ailleurs, dans les livres de l'époque du commerce, c'est... ils le savent, de toute manière. Hein, ils ont la pratique en quelque sorte, donc ils ont des manuels du parfait négociant, ils ont des choses comme ça. Par contre, alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils sont tout à fait au fait de la littérature des Lumières. Très peu possèdent l'encyclopédie parce que bon, ça coûte déjà très cher, hein, mais ils possèdent tous les livres, tous les ouvrages importants de la philosophie des Lumières, tous ceux qui ont marqué un petit peu cette révolution de la pensée. Ils possèdent surtout les ouvrages de voyage qui leur servent aussi, hein, mais c'est les voyages du capitaine Cook, hein, l'histoire des deux Indes, des ouvrages qui sont quelquefois en 10, 20, 30 volumes. Hein. Ils sont aussi assez... alors c'est intéressant, hein, les grands classiques littéraires, bon, ils les lisent, mais alors ils sont très friands de la littérature anglaise, des romans anglais du XVIIIe siècle, hein, ces nouveaux romans... qui ont des héros qui leur correspondent bien, je crois.
Ce qu'on n'attendait pas forcément, d'ailleurs.
Non. Alors, je ne parle pas, il ne s'agit pas de négociants anglais qui liraient des ouvrages de littérature anglaise. Non, ce sont des négociants français qui lisent en français ces romans anglais du XVIIIe siècle. Que lisent-ils encore ? J'oublie. il y a toute une littérature sur les sciences, les techniques. Ce sont des hommes qui sont friands des connaissances de leur temps, de cet esprit encyclopédique, finalement. Ça, c'est assez intéressant, ça nous fait... Alors, bien sûr, est-ce qu'ils lisaient tout ce qu'ils avaient acheté comme livre ? C'est évidemment toujours la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils les exposaient pour montrer qu'ils avaient de la culture dans une belle bibliothèque? Alors là, on peut trancher, je pense, parce qu'il y a une grande différence avec les bibliothèques des nobles, par exemple. Michel Figeac s'interrogeait. Les nobles ont des bibliothèques dont ils ont souvent hérité. Il y a un héritage important. Là, j'ai des hommes neufs, souvent. Des hommes qui ont donc acheté eux-mêmes ces livres, hein, ou des négociants étrangers, pour le coup, alors qui les ont transportés, quand ils ont des ouvrages depuis l'Angleterre, l'Allemagne, s'ils les ont amenés dans leur malle, je pense quand même pour les lire un petit peu, plutôt que simplement les exposer. Ce sont des hommes qui n'ont rien derrière eux. Ce ne sont pas, en général, ceux que j'ai étudiés, des héritiers. Hein. Donc ils se sont fait eux-mêmes leur bibliothèque. Par contre, évidemment, il y a des titres qui nous échappent, hein, dans les notaires, parce que c'est peut-être aussi le biais sur la littérature commerciale. Une partie des ouvrages sont des ouvrages techniques qui sont dans le comptoir lui-même, qui servent d'ouvrages de travail, hein, qui sont quelquefois donc sortis, ou même dans l'inventaire après décès du négociant, qui ne sont pas comptés parce qu'ils restent dans l'entreprise. Ils sont utilisés par le fils, par les successeurs, finalement. Hein. Alors ça, bon, quoique, de temps en temps, on a l'inventaire aussi du comptoir. Hein. J'ai pu étudier aussi les œuvres d'art, les tableaux qu'ils pouvaient posséder, ils ne possèdent pas en général de tableaux de grande valeur. Hein. Ceux que j'ai pu dépouiller, c'est le hasard aussi des dépouillements. Hein. Mais ils aiment bien la décoration au mur, les reproductions d'œuvres d'art, les lithographies, les instruments, lunettes astronomiques, globes terrestres. Tout ça décore très très fortement leur comptoir en particulier.
Merci Philippe. Avant de vous laisser conclure, je crois que vous avez donné un aperçu de la très grande richesse de votre travail. Et je voudrais faire deux remarques avant de vous laisser donc conclure. La première, c'est que le livre peut paraître gros, mais je pense que tout le monde l'a compris. Par rapport aux dépouillements qui ont été réalisés, le livre lui-même est petit. Il est infime, oui. Si je puis dire.
J'ai beaucoup réduit.
En second lieu, nous sommes dans une année assez exceptionnelle pour l'histoire bordelaise, dans la mesure même où votre livre est publié, et publié l'étude des familles des élites bordelaises de Stéphane de Mainvielle, le Victor-Louis de Christian Taillard, et vient d'être publié ces jours-ci aussi l'Atlas historique de la ville de Bordeaux. Donc nous sommes particulièrement gâtés cette année. À vous de conclure sur la richesse même de votre travail.
Eh bien, écoutez, puisqu'il s'agit de faire la promotion du livre, je dirais que cet ouvrage, c'est vrai, est très lourd, il est très gros, il y a plus de 800 pages. En fait, quand on y réfléchit, moi, je me suis habitué, il y a 500 pages de texte, et il y a quelque chose qui est assez rare, il faut le dire quand même, pour reconnaître la valeur des éditions des presses universitaires de la Sorbonne. C'est qu'ils ont réussi à faire ce qui se fait très rarement. J'ai quasiment 250 pages d'annexes qui ont été intégrées. Ce qui fait que là, vous avez un travail qu'on trouve rarement. Il y a les deux tiers de ma thèse, finalement, pratiquement. Et il y en avait un peu plus long, mais bon, on a coupé. Et tout ce dont je vous parlais n'est pas simplement... Vous ne le lirez pas simplement de manière allusive. C'est-à-dire que j'ai, par exemple... toutes les fortunes, les reconstitutions de fortunes, il y a les 60 fortunes reconstituées en détail, on a réussi à les mettre. Tous les tableaux sur le cadre de vie, sur les petites cuillères et les armoires, les buffets avec la qualité des meubles, etc. J'avais oublié de parler de l'habillement. J'ai étudié la garde-robe de mes négociants et de leurs épouses, bien évidemment. Hein. Jusqu'aux instruments de l'intimité, de la salle de bain, ou même des baignoires qu'ils peuvent posséder. Tout ça est là, tous les tableaux. On peut aller, il n'y a pas, si j'ose dire, dans mon livre, alors c'est pour ça que je m'expose en même temps, je le sais, il n'y a pas de boîte noire, c'est-à-dire qu'on peut aller voir les sources, et on peut même, en les lisant, peut-être aboutir à des conclusions qui peuvent être différentes des miennes. D'ailleurs, vous avez tout le matériel, si j'ose dire, dans le livre pour vous faire vous-même votre opinion. Hein. En grande partie, il manque la base de données informatiques, qui évidemment, là, la clé un petit peu du... Mais ça, je la garde pour moi.
Eh bien, merci Philippe Gardet.